discussion formidable sur les problèmes de société. Coudéro et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparu, volatilisé. Ce soir, je vous lance un appel. Vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune.
Alors, chers amis et auditeurs du mouvement Action Justice, bonjour. Bienvenue encore une fois à notre rendez-vous mensuel portant sur les nombreuses injustices générées par le système de protection de la jeunesse au Québec. Mon nom est Gilles Boivin, étant l'un des membres fondateurs et présidents de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, communément appelé CFDPJ, il me fait toujours plaisir d'être avec vous et de seconder ou remplacer le dernier vendredi du mois, M. Adjazi Touni, dans l'animation de différents sujets touchant notre thématique. Avec moi, pour m'accompagner, M. Yann Stoll, aussi membre de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, et notre référence historico-politico-légale en protection de la jeunesse. Bonjour, M. Stoll.
Bonjour.
Nous aurons aussi la chance, au cours de l'émission, d'avoir un entretien téléphonique avec Mme Luce Bouchard, habituée de notre émission, présidente de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. De plus, nous avons aussi aujourd'hui l'honneur de recevoir une dame que j'attendais depuis longtemps à cette émission, Mme Karine Bonnier, mère du jeune Guillaume Crépeau-Bonnier, qui s'était, on s'en souviendra, enlevé la vie le 9 mars dernier, alors qu'il séjournait au Centre Huberdeau, Centre Jeunesse des Laurentides, où il était en attente d'un suivi psychologique qu'il n'aurait jamais reçu. Bonjour, Mme Bonnier.
Bonjour.
Bienvenue à cette émission. Je suis très heureux de vous avoir avec nous, comme je le disais. Et finalement, nous avons aussi la présence de M. Mario Roy, parent ayant reçu des services de la DPJ et qui pourra nous subir, oui, comme dit Yann. Donc, bienvenue, M. Roy.
Bonjour.
Alors, dans quelques minutes, j'aurai l'occasion de leur laisser la parole et de les interroger sur notre sujet du jour, soit la qualité des services offerts dans les centres jeunesse au Québec. Alors, est-ce que la sécurité et le développement de l'enfant, objet de l'article 38 de la Loi de la protection de la jeunesse au Québec, sont réellement préservés dans les centres jeunesse? C'est ce dont nous parlerons. Mais auparavant, j'aimerais souligner que, si vous désirez, nous envoyer vos commentaires, nous faire parvenir vos questions ou obtenir de l'information concernant une problématique que vous pourriez vivre, vous pouvez le faire en nous écrivant à DPJ Radio Centreville, à commercial hotmail.com. Donc, DPJ Radio Centreville, à commercial hotmail.com ou par la poste, si vous le désirez, à SAIVDPJ, SAIVDPJ, Casse Postale 193, Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, J8C3A3. Donc, J8C3A3. Maintenant, avant d'entendre le point de vue de nos invités, j'aimerais parler d'un article paru dans un hebdo régional des Basses-Laurentides, La Voix d'Émile-Île, le 19 novembre dernier, qui m'a littéralement assommé, je vous le dis tout de suite, et qui titrait « Grand prix québécois de la qualité, le centre jeunesse des Laurentides parmi les lauréats ». Je vous lis certains passages. On nous dit « Le centre jeunesse des Laurentides a été nommé lauréat 2014 de la grande mention dans le cadre des Grands prix québécois de la qualité dévoilés le 13 novembre. C'est le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, Jacques Daou, qui a procédé à la remise des prix décernés chaque année à des entreprises et des organismes publics en signe de reconnaissance de leur performance globale ainsi que pour l'excellence de leur gestion. On y ajoute, les Grands Prix québécois de la qualité soulignent officiellement les efforts continus d'organisations qui ont réussi à optimiser leur performance afin d'atteindre les plus hauts sommets de l'excellence. On ajoute, les Grands Prix québécois de la qualité constituent la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec aux entreprises et aux organismes les plus performants. Ils se comparent par leur rigueur à certains prix de renommée internationale, dit-on, à leur sujet. Et on ajoute, soulignons par ailleurs que le Centre jeunesse des Laurentides n'en est pas à sa première distinction en 2014. Retenez bien cette date-là. Le 16 octobre dernier, à l'occasion de la remise des prix d'excellence et mention d'honneur du réseau de la santé et des services sociaux, le Centre jeunesse des Laurentides a été nommé lauréat 2014 de la mention d'excellence du ministre dans le domaine de la valorisation et mobilisation des ressources humaines. Et on termine en disant, cette mention d'excellence du ministre récompense un établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui s'est démarqué de façon significative dans le domaine de la valorisation et de la mobilisation des ressources humaines. Avec cette mention spéciale, le ministère de la Santé et des Services sociaux veut souligner l'importance et le rôle clé des personnels, du personnel du réseau. Une bourse de 10 500 $ a été remise au Centre jeunesse des Laurentides. Je vous dis tout de suite, quand je lis ça, je suis estomaqué. J'aimerais ça qu'on me l'explique, comment le réseau de la protection de la jeunesse des Laurentides peut-il être récompensé pour la qualité de ses services, alors qu'un jeune peut avoir le temps de s'y suicider avant d'avoir les services dont il a besoin. Je vous rappelle que le 18 juillet 2013, un juge de la Cour du Québec a ordonné que Guillaume Crépeau-Bonnier, adolescent de 15 ans, reçoivent des services psychologiques et que le 9 mars 2014, 8 mois plus tard, date de son décès, il ne les avait toujours pas reçus. Ah, ça mérite un prix. Le jeune a exprimé à 3 reprises qu'il voulait mourir. On ne l'a pas pris au sérieux et il n'y a pas eu de mesure pour le protéger. Le jour de sa mort, 2 éducatrices étaient présentes dans l'unité où il logeait, mais c'est un autre jeune qui l'a découvert pendu dans sa douche. Toute une qualité de service.
Au lieu des poursuites criminelles pour la négligence,
ouais. Cela me fait penser.
On décerne un prix d'excellence, ouais. Ce qui signifie évidemment c'est de la propagande soviétique, ouais. de poudre aux yeux de la population québécoise. Ouais.
Mais je poursuis, Yann, avant de donner la parole. Cela me fait penser en fait à certains dirigeants d'entreprises d'État, hein, publics et parapublics, qui malgré la piètre performance de leur organisation ont bénéficié de généreuses primes de rendement. Mmh. Vous vous souvenez d'un ancien président de la Caisse de dépôt?
Oui.
Et justement, Yann, oui, vos réactions par rapport à ça?
Bien, comme je dis, c'est typique pour le régime totalitaire où la vérité est ensevelie sur une tas de mensonges, sur une tempête de mensonges dans nos masses médias. On utilise d'autres termes pour ça, mais qui participent allègrement à ces mensonges. Le droit, l'état de droit, ça n'existe plus au Québec. L'état de droit, ça n'existe plus au Canada. Les cours de justice, c'est des commandes politiques d'habitude ou commandes tout court monétaires. Mm-hmm. La justice est délaissée pour les naïfs.
Ouais. Alors, voilà. Madame Bonnier, vous qui êtes directement concernée dans mon petit discours, dans mon éditorial, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez face à ça?
Quel est votre ressenti?
Quand vous lisez, vous entendez ce qu'on a offert comme prix?
j'en viens pas. Vous savez, il y a eu un autre suicide au mois d'août à Huberdeau.
Un autre, hein?
Mm-hmm. Oui. Il a été vaguement dans les journaux, mais c'est ça. Il y a eu un autre jeune qui a fait le même geste que mon fils. Je pense dans pas mal les mêmes circonstances. Et ils en ont prévenu un autre aussi dans la semaine suivant le décès de mon fils. Il y a un autre qui voulait se prendre mm-hmm. la même façon de faire, puis ils l'ont trouvé à temps. Mm-hmm. So, je pense pas non qu'il devrait recevoir un prix. Là. Je pense que ça existe peut-être même pas au Québec qu'il y ait autant de suicides dans un même sens. Pourquoi eux, ils recevraient un prix, pas les autres, dans le fond? Je suis scandalisée.
Ah oui, c'est sidérant. Monsieur Roy, vous comme parent, vous aussi, comment vous réagissez face à ça?
Bien, la remise du prix a été faite par un ministre et je trouve ça totalement irresponsable de la part de ce ministre-là d'aller remettre un prix à un organisme qui ne rend aucun service et qui ne respecte aucunement les jugements qui stipulent très bien qu'ils doivent apporter aide et soutien autant à l'enfant que le parent. Et de voir que les procédures ne sont pas respectées et qu'ils reçoivent un prix pour ça, je mettrais le ministre au défi, moi, de se pencher sur certains dossiers que j'ai en ma possession et de voir comment est-ce que c'est misérable et exécrable le système de la protection de la jeunesse au Québec présentement.
Je trouve ça très pertinent. Très pertinent ce que vous dites, parce que non seulement il n'y a pas qu'un ministère là-dedans, il y en a deux. Hein? On parle du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Vous savez, c'est La Voix des Mille Îles, c'est un journal qui est quand même très bien lu dans les Laurentines. Et malheureusement, c'est un grand sujet de propagande, cet article-là, parce que c'est loin d'être la vérité de ce qui se passe. Les dossiers que je traite sont justement protection de la jeunesse des Laurentines. Et je peux vous dire que si un seul média de ça public, là, je vous garantis qu'il y aurait des personnes qui seraient derrière les barreaux présentement.
Bien sûr. Écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est que nous prenions une petite pause pour prendre notre souffle là-dessus. Et après la pause, nous contacterons Mme Luce Bouchard de l'Association pour le respect des droits des parents, grands-parents et enfants du Québec. Nous sommes de retour de la pause et pour poursuivre avec notre sujet du jour, accueillons Mme Luce Bouchard, présidente de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. Bonjour, Mme Bouchard.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci.
Heureux de vous avoir à nouveau à notre antenne.
Bien, oui. J'écoutais attentivement les propos concernant la DPJ. Alors, ça m'a ramené vraiment aux mémoires que le barreau avait déposées en 2005.
Ah oui?
C'était titré « Il était une fois un projet de loi sur la protection de la jeunesse ».
D'accord.
Il sera une fois dans des parents, trois petits points, des parents dans le Dano. Alors, on dénonçait assez vertement cette loi, justement, mm-hmm. qui donnait davantage de pouvoir à la DPJ, prétendait que la DPJ n'avait pas... pas des pouvoirs qu'ils avaient besoin.
Madame Bouchard, vous pouvez regarder, c'était qui l'auteur de ce rapport du barreau ou le
oui,
co...
c'était l'avocat Trahan, Maître Patrice Urtubiz.
Oui, c'est ça, Maître Urtubiz. Oui. Et vous savez qu'est-ce qui est devenu de Maître Urtubiz?
Pas nécessairement.
Il était nommé juge
à la Cour
du Québec, Centre de la jeunesse. Alors, c'est comme ça qu'on ferme
la trappe.
La trappe aux gens qui contestent.
Exactement. On met ça dans le protecteur du citoyen.
En regardant la personnalité de Maître Urtubiz, moi, je dénonce une loi et après, j'accepte de rendre jugement en vertu de cette loi que je dénonce. Alors voilà la personnalité de ce juge.
Justement, lui, il y avait un autre avocat qui participait à cette... qui était Maître Beausoleil et qui faisait exactement ce que les avocats, ce que les PJ voulaient.
Oui, je me souviens, Maître Beausoleil.
Donc, malgré ça, au moment, ils l'ont dénoncé quand même. Je ne sais pas si c'était pour se faire du capital ou autre, ou obtenir justement un poste de juge, mais ils expriment quand même des idées vraiment que d'avoir la rupture du consensus social, la rupture des enfants et des parents, d'éloigner lorsqu'ils retirent un enfant. Souvent, le parent va avoir des rendez-vous, des droits de visite et tout. Mais graduellement, lorsque l'enfant est tout petit, on va nécessairement éloigner le parent davantage, disant que ça perturbe l'enfant et tout. Alors, jusqu'à ce que le parent soit carrément hors de vue de l'enfant ou de tout contact. Alors, on décide de procéder à l'adoption ou de confier l'enfant à des familles d'accueil pas toujours qualifiées.
Mais, Mme Bouchard, à l'ADPJ, on est prompt, hein, on s'entend là-dessus, on est prompt à retirer un enfant à sa famille sous prétexte que sa sécurité et son développement seraient compromis ou en danger. Mais une fois en centre d'accueil, selon vous, sont-ils davantage garantis quand lorsqu'on parle de sécurité et de développement? Si on reconnaît la valeur d'un arbre à ses fruits, là, on peut peut-être mettre cette garantie en doute. Qu'est-ce que vous en pensez?
Certainement, parce que je connais une famille d'accueil, entre autres, qui a quatre enfants qui ont été retirés graduellement pour des abus, mais on continuait à envoyer encore des enfants dans cette famille-là. Alors, je connais la famille d'accueil personnellement, et je vous dis, j'ai le nom des enfants aussi.
Ah oui.
Qui ont été agressés et violentés. Alors, ces enfants-là, aujourd'hui, sont maintenant majeurs. Mais peut-être, on ne sait pas si un jour, tous ces enfants qui ont été violentés et maltraités dans les familles d'accueil pourront être réunis. Ça, on ne le sait pas. Mm-hmm. Mais c'est parce que les moyens ont détruit tout leur dossier après 5 ans. Le dossier est détruit complètement. Alors, il faut vraiment avoir les documents légaux. Souvent, les parents négligent de garder ces documents-là.
De garder les copies des documents.
Les possibilités de poursuite sont minces.
Oui, effectivement, vous avez bien raison. D'ailleurs, pour beaucoup de corporations, la durée de vie d'un dossier, c'est 5 ans. Donc, après, ils peuvent le détruire après 5 ans. Monsieur Roy, vous en pensez quoi?
Bien, écoutez, madame, vous avez parlé que malgré que ça avait été su qu'il y avait eu des sévices de CV dans une famille d'accueil, le DPJ a remis...
Il continuait.
Je comprends pas pourquoi qu'il y a eu aucune accusation de négligence criminelle concernant les avocats et les travailleurs sociaux qui déposaient ces dossiers-là à la cour.
Il y a eu des plaintes.
Oui, mais je parle pas de plaintes. Je parle d'accusation criminelle, de négligence criminelle.
Oui.
Ah, c'est parce que c'est le procureur général.
On peut parler de complicité de fait de la part du gouvernement et du barreau du Québec.
Exactement, absolument. Parce que le procureur n'a jamais voulu, malgré les rapports médicaux, malgré toutes les preuves, le procureur a refusé de poursuivre. Alors, ni plus ni moins que ça a été mis sous le tapis.
Donc, dans ce cas-là, il faudrait qu'un regroupement de parents dépose des plaintes privées concernant ces procureurs-là, parce que ces procureurs-là sont complices.
Mettez-en. Les procureurs sont aussi complices, parce que c'est...
Mais comment passer à côté de procureur qui va tout bloquer toujours?
Du club, il y a plein de gens là, qui sont dans ce club-là. Là. Mm-hmm.
Donc, finalement, c'est de sortir dans la rue et... Manifester, faire comme les étudiants, sauf les parents.
Oui, c'est ça, mais c'est parce que souvent les parents sont démunis, sont vraiment démunis. Ce sont les parents pauvres. Justement,
Mais c'est pas juste les parents pauvres aujourd'hui, là.
Non, je sais. Mais par contre, les parents ne se méfient pas. Alors souvent, lorsque le dossier est assez avancé, ils n'ont pas la moitié des documents, veulent avoir les documents. La Cour refuse de leur remettre malgré leur obligation de remettre les documents. Alors, c'est difficile de faire une poursuite parce que souvent, toutes ces choses-là sont inscrites dans les documents de la DPJ ou de la Cour. Alors, vous pouvez poursuivre si vous avez ces documents-là parce que c'est leurs propres écrits. Et leur propre signature, donc c'est pas mal difficile de contester ça à la cour.
Bien sûr. Mm-hmm. Comme vous le dites, les parents ne se méfient pas dans une situation comme ça.
Et ensuite de ça, j'ai justement le cas là, dans le journal là, d'un professeur qui avait dénoncé la petite fille avait fait des confidences à sa professeure et elle avait dénoncé à la DPJ. Puis là, la DPJ s'est aperçue que c'est-à-dire le professeur s'est aperçu que la DPJ obligeait l'enfant dans l'évolution du dossier. Donc, on a obligé l'enfant à suivre une thérapie avec le père et on a accusé la mère d'aliénation parentale. Alors, elle tire ses conclusions en disant que les appels à l'aide pour un enfant sont symptomatiques d'adultes qui ne savent pas protéger leurs petits-enfants bien plus qu'un gage de la qualité de la DPJ. Mm-hmm. Elle ne donne pas de fleurs à la DPJ tout au long de cet article-là. Ouais.
Maintenant, j'ai le goût d'entendre, si vous permettez, Mme Bouchard, Mme Bonnier là-dessus. Mme Bonnier, lorsque on parle de sécurité et de développement de l'enfant, selon vous, selon votre vision, selon votre expérience, bien sûr, est-ce que vous croyez que lorsqu'un enfant est en centre d'accueil, sa sécurité et son développement sont garantis, sont protégés?
Non, je crois pas. Je connais pas les autres centres, là, dans le fond, du Québec, mais celui de Huberdeau, je suis convaincue que les enfants sont pas du tout en sécurité, là, et je pense pas qu'ils vont l'être un jour. Ils doivent fermer ce centre-là, selon moi. Là.
Ah oui, selon vous, ils devraient fermer?
Ouais.
Ouais, vos principales récriminations, ce serait quoi, par rapport à ce centre-là? Qu'est-ce que vous diriez qui va pas dans ce sens-là?
Ben, dans le fond, premièrement, il faudrait qu'ils changent leurs employés ou qu'ils les forment mieux que ça, parce que dans le rapport que j'ai eu, ils admettent que les employés sont pas bien formés pour les jeunes qui ont des problématiques suicidaires.
Mm-hmm. Donc, meilleure formation.
Ça, mais ils fournissent un excellent service. C'est ça le prix de ministre?
Ouais, ils sont supposés offrir un excellent service, ouais, c'est ça.
Ah oui, ils sont lauréats de
la
qualité des services en 2014.
Ouais. Surtout après que ces rapports-là sont sortis.
C'est assez étonnant. Hein?
Vous pourriez nous éclaircir un peu le dossier de votre fils. Est-ce qu'il y a des répercussions? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont suivi ce geste malheureux qui...
Ah, il y a eu une enquête du commissaire aux plaintes de la DPJ parce que j'ai demandé une enquête, parce qu'il faut demander. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était déjà mandaté pour faire une enquête, puis je l'ai poussé pour faire...
C'est qui a été mandaté?
Le commissaire de la DPJ.
C'est bien à côté.
Employé de DPJ.
Oui, c'est ça. Il travaille dans la DPJ.
Employé de DPJ, enquête sur la DPJ.
Je me souviens que la Sûreté du Québec devait entamer une enquête, ainsi que le coroner. Avez-vous eu des nouvelles de ça?
La police m'a dit que l'enquête pour eux était finie puis qu'il n'y avait aucune négligence, selon eux, qui a été faite dans cette cause. Mais le coroner, je n'ai pas encore de nouvelles de lui.
Ben, Seigneur.
Et il y a eu les droits de la personne qui ont enquêté aussi pour savoir si les droits de mon fils et les nôtres ont été bafoués.
OK. Si on prend ça, Mme Bonnier, suite au décès de votre fils à Huberdeau, le commissaire aux plaintes associé à la DPJ des Laurentides, M. Hubert Côté, et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse ont émis des recommandations. Pouvez-vous nous en parler un peu de ces recommandations-là?
En fait, le commissaire aux plaintes en a fait 13.
13.
13 recommandations, dans le fond, pour Huberdeau. Dans la première recommandation, ça dit qu'ils ont besoin d'un guide de soutien pour qu'ils sachent pourquoi que les enfants sont admis, dans le fond, parce que c'est pas clair, dans la cause de mon fils, c'est pas clair pourquoi il a été admis à Huberdeau.
D'accord.
On laissait sous-entendre que mon fils n'avait pas sa place à Huberdeau.
Ah bon?
Donc, que l'intervenante, elle a pris la décision de tout ça, puis qu'elle n'a pas consulté ses...
Quand on parle d'intervenante, on parle de...
Le travail social a signé au dossier de mon fils.
D'accord.
Mais il n'y a pas de faute commise.
Non, non. Ben non.
Ils veulent aussi que quand un jeune revient de fugue, qu'on le prenne plus en charge. Parce que dans le fond, mon fils, il a fait une fugue la veille de son décès. Et il a dit à l'éducatrice, quand il est revenu, qu'il cotait ses intentions suicidaires de 7 sur 10. Et ils l'ont laissé aller. Ils ont trouvé que c'était pas si haut que ça.
Ah bon? Seigneur.
Ils disent aussi qu'il faut assurer le suivi des demandes d'évaluation psychologique. Donc, ils admettent que c'était trop long, que mon fils a...
Quand même.
Là-dedans, ils parlent de la configuration des lieux, des douches, parce que c'est là que mon fils s'est enlevé la vie. Alors, ils demandent à ce que ça soit modifié. Et selon eux, moi, je ne sais pas, j'ai pas été, mais selon eux, ils ont tous démoli les douches où ce que mon fils s'est enlevé la vie. Ils les ont refaites à neuf.
Bon, donc une des recommandations, c'est de refaire des nouvelles douches puis les configurer davantage de façon à ce qu'on puisse observer ce qui s'y passe.
Oui, dans le fond, c'est ça, pour qu'ils soient plus en sécurité, dans le fond. Ils disent qu'il faut que les plans d'intervention soient...
Le responsable, c'est les douches.
Oui, c'est ça.
dans une des recommandations, c'est ça.
C'est un problème de gauche, finalement.
Ben, oui, c'est ça, c'est pas de leur faute. Ben, là, voyons. C'est pour ça qu'ils ont eu un prix.
Oui.
Les autres, c'est plus global, là, dans le fond. C'est qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait des plans d'intervention plus élaborés avec les jeunes. Dans le fond, c'est ça.
OK. Alors, on discute plus d'ordre méthodologique, de questions d'ordre méthodologique. On aurait dû intervenir peut-être de telle ou telle façon. On n'est plus... est-ce que vous pouvez nous en donner un de ces énoncés-là, général, là, parmi tant d'autres?
Il y en a un, là, c'est marqué « S'assurer que les plans d'intervention soient réalisés en conformité avec le cadre de référence en matière de PI et PSI ».
Okay.
PI, c'est un plan d'intervention, mais PSI, je ne sais pas, ils ne me l'ont pas dit, c'était quoi, là?
D'accord. Peut-être un plan de suivi individualisé.
Je pense que c'est ça. Ouais. Dans le fond, ils veulent revoir les mécanismes d'accès pour s'assurer qu'ils favorisent une analyse objective des besoins du jeune concernant son lieu d'hébergement.
Finalement, si j'entends bien ce que vous nous dites, dans le fond, les recommandations ne remettent pas en cause vraiment les pratiques fondamentales là, d'un centre jeunesse. Là. On assume ou on n'a identifié aucune responsabilité là, au niveau du centre jeunesse, là, d'aucune façon. Là.
Oui. Ils admettent leur tort dans le document qu'ils m'ont donné. Dans le fond, ils disent, mais ils ont une raison.
Okay.
Il y a toujours un « mais », hein, dans le fond.
Oui.
Ils disent, dans une des recommandations, ils disent revoir le protocole de crise suicidaire en s'assurant d'associer les intervenants et éducateurs pour que son efficacité soit augmentée. Mais dans le fond, ce qu'ils disent avant ça, c'est qu'ils disent que les intervenants qui doivent faire ça, dans le fond, sont supposés de contacter, quand il arrive un incident de main, ils sont supposés de contacter, dans le fond, un psychologue de garde.
D'accord.
Et eux, ils l'ont pas fait dans le cas de mon fils parce qu'ils voulaient juste pas se faire dire de le garder à vue parce que c'est quelque chose que c'est inutile pour eux de se faire dire, là, parce que c'est supposément que ça vient de base de le garder à vue, là.
OK. Donc, s'il était à un niveau de risque de 7 sur 10, normalement, on aurait dû lui faire rencontrer un psychologue ou quelque chose. Ou
l'envoyer à l'hôpital en urgence.
OK. L'envoyer à l'hôpital en urgence et ça ne leur tentait pas de le faire.
Non, parce que, en fait, j'ai sorti son dossier, dans le fond, de toutes les notes que les intervenants y ont pris là, pendant qu'il était à Huberdeau. Et ici, je vois dans le dossier là, le 4 mars. Dans le fond, mon fils est mort le 9 mars. Il est marqué « tombe dans un discours suicidaire, nomme qui va se suicider, que de toute façon, on s'en fout ». Là, ils ont marqué « on continue de l'ignorer car nous ne voulons pas répondre à ce que nous croyons être sa fonction de recherche d'intervention et il ne présente pas un risque car nous l'avons à vue ». Mais ils l'ont pas vu quand il est allé dans la douche après. Là.
Ils l'ont pas vu, certain. C'est un autre jeune qui l'a trouvé pendu dans sa douche. Ils l'ont eu à vue assez bizarrement. Monsieur Roy, vous avez...
Elle avoue dans son écrit qu'elle continue à l'ignorer.
Oui.
Un enfant qui a besoin d'aide psychologique, les intervenants l'ignorent.
Oui.
Ça mérite un prix.
Ça mérite un prix, encore une fois.
Mais il y a encore une autre chose qui est très troublante, à mon avis. Troublante, c'est que dans le bilan de l'Association des centres jeunesse du Québec de 2006, à la page 7, ils écrivent « La DPJ au service des enfants en besoin de protection » comme sous-titre. Cela a été souvent dit, la protection de la jeunesse ne doit pas être la porte d'entrée pour l'accès à des services d'aide. Lorsque tel est le cas, il en résulte un engorgement des services de protection et cela ne s'avère aucunement être la bonne façon de venir en aide aux familles en difficulté. Cela ayant été souvent dit, il est temps de passer à l'action. Alors, est-ce que vous êtes capable de comprendre quel est le but de la PJ, puisque ce n'est pas la porte d'entrée à l'aide?
C'est difficile.
Mais à quelle action ils doivent passer?
Oui, c'est difficile.
C'est quoi la DPJ, au fond? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mm-hmm. Madame Bonnier nous présente le cas tragique de son fils qui s'enlève la vie. Il y avait des avertissements très clairs,
très clair,
qu'il y a un tel danger. Je pense qu'il y avait même ordonnance de la Cour de le protéger. La DPJ fait rien. Alors, le prix d'excellence du ministre de la Santé et des services sociaux, c'est quoi? C'est quoi l'excellence de service? Notre gouvernement, à nous, il sait foutrement rien qu'est-ce que la mission de la DPJ. Puisque chaque fois, c'est pas ça, c'est autre chose. Est-ce que la DPJ, ça signifie directeur de la protection de la jeunesse? Mais il n'est pas là pour les services pour protéger nos enfants. Alors, c'est quoi ce...
Oui. Où est la protection? En principe, il ne devrait pas pouvoir sursoir au principe de sécurité et de développement de l'enfant. C'est ça qui est aberrant dans ce cas-ci. C'est qu'on se rend compte que on retire un enfant de sa famille en disant sa sécurité, son développement sont compromis, on l'amène en centre d'accueil ou en famille d'accueil selon le cas, et non seulement sa sécurité et son développement sont pas préservés, mais on se demande s'il n'y a pas un danger supplémentaire.
C'est clairement, l'enfant n'est qu'une marchandise, ouais, n'est qu'un objet qu'on entrepose dans un centre jeunesse. Ouais. À la base, au fond, est-ce que l'État peut donner l'amour à l'enfant? Mm-hmm. Jamais. Est-ce qu'il peut vraiment remplacer les parents? Jamais. Quand un parent ou des parents en difficulté, peu importe l'origine de leur difficulté, ont besoin d'aide, l'État est là. On prétend que le ministère de la Santé, aujourd'hui des services sociaux, qui porterait mieux services sociaux, et prétend de fournir les services à ces gens-là, mais en même temps, il donne le prix d'excellence à un DPJ dont la mission, on ne sait pas c'est quoi. Parce que ce n'est pas la DPJ, comme eux-mêmes ils disent, ce n'est pas la porte d'entrée pour l'aide.
Non.
Aux enfants.
Et on se demande c'est quoi la qualité des services, effectivement, pour remettre un prix comme ça, alors qu'on sait que dans la même année, il y a au moins deux jeunes qui se seraient enlevés la vie dans le système de protection de jeunesse de Laurentides. Il y a un problème. Madame Bouchard, comment vous réagissez aux recommandations dont parlait Madame Bonnier?
Premièrement, les parents, le projet de loi. Dans le projet de loi, la DPJ c'est d'apporter aide et assistance aux parents. Ce qui arrive là, souvent, lorsque le parent a besoin d'aide, bien on le réfère au CLSC parce que eux autres ne donnent pas l'aide aux parents.
Mm-hmm.
Alors, c'est ça le problème. Alors, le parent, le CLSC, bien évidemment, vous allez au CLSC, vous avez besoin d'aide. Il y a des listes à attendre. Alors, le parent n'a pas l'aide. Alors que c'est la DPJ qui est payée pour donner l'aide aux parents. Alors, ça éviterait énormément de... Mais ils sont pas intéressés d'aider le parent. Moi, j'ai eu plusieurs cas. Les mères ont été envoyées une jeune mère monoparentale envoyée dans un centre mère-enfant pour 30 jours ou l'évaluation de 30 jours, lui aider à devenir une vraie mère puis aider son enfant.
Mm-hmm.
Et alors, ce qui se produisait dans ce moment-là, c'était des rapports, on surveillait la mère, on ne l'aidait pas. On surveillait la mère, tout ce qu'elle faisait. Alors, le rapport était comme une démolition totalement des capacités de la mère. À la fin, la mère sortait sans son enfant.
Oui, comme des animaux de laboratoire, la mère.
Capable de s'occuper de son enfant. Alors, mm-hmm. voyez-vous, ce sont des services là, bidons, mm-hmm. à mon point de vue. C'est plus simple que ça. Parce que... Monsieur Bouchard, Camille Bouchard, qui avait fait un célèbre rapport concernant la nouvelle loi de la protection de la jeunesse,
oui.
Disait un Québec fou de ses enfants. On se demande si le Québec n'est pas plutôt malade de ses enfants.
Le Québec se fout de ses enfants.
Ouais. Ou le Québec se fout de ses enfants. C'est à peu près ça.
Ouais.
Parce que l'aide, moi, depuis plusieurs années, les gens, on n'a eu aucune aide. Tout ce qu'on a eu, ce sont des reproches et des accusations. Mm-hmm. On fait des évaluations à l'interne. Alors, ce sont toujours des psychologues de la DPJ. Donc, on voit dans le sens ce que la travailleuse sociale et tout. Alors, c'est pas sérieux. Même si on devait faire une refonte avec la loi 125, mais on a donné encore trop de pouvoir. Même les avocats qui ont rédigé du barreau, ont rédigé le rapport, disent que
ça en donne plus, en fait.
On augmente ses pouvoirs,
ben oui.
Autant on perd les moyens de les contrôler. Alors, c'est tellement vrai, malgré que Il y a des gens qui ont écrit ce rapport, puis ils sont devenus juges. Là. Il était très conscient, le monsieur, en devenant juge, parce que cet avocat-là, qui ferait absolument le même, les mêmes scénarios qui se passent depuis des années. Alors, moi, personnellement, j'ai beau lire ces choses-là, j'en ai des frissons parfois parce que je me dis comment on peut détruire un enfant, sa famille et ensuite de ça, son milieu. On détruit tout. L'enfant n'a plus d'encadrement, n'a plus de personnalité. Il perd sa personnalité et ensuite, c'est le choc qu'on donne à l'enfant. Un jeune enfant là, de 2 ou 3 ans qu'on enlève comme ça, qu'on retire de sa famille sans crier gare, l'enfant est marqué pour toujours, je dirais. Pour toujours. En tout cas, de toute manière... Puis ensuite de ça, ce qui est triste dans tout ça, la majorité des dossiers se ramassent se ramassent à la cour. C'est triste, mais on dirait que c'est la cour qui doit décider. C'est pour valider toujours les décisions de la DPJ.
Donc vous déplorez qu'on judiciarise toujours les dossiers?
Dans 75% des cas.
Oui.
Alors, c'est parce que la DPJ a besoin de faire valider ce que les autres ont décidé. Et c'est pas difficile à valider. Mm-hmm. Tout le monde le sait.
Bien sûr. Maintenant, bon, on va s'entendre pour dire que il arrive que des travailleurs, travailleuses sociaux vont intervenir dans des familles et vont aider. Bon, c'est on l'a déjà vu. On peut pas dire qu'il aide jamais. Sauf que lorsque la DPJ retire un enfant ou un adolescent de sa famille et on sait que ça arrive très souvent. En principe, il devrait se prémunir de sa sécurité, de son développement. Il y a vraiment un problème là, dans ce cas-ci.
Le problème là aussi, c'est que ce n'est pas des travailleurs sociaux qui sont formés à l'université et qui devraient supposer d'être un peu équipés pour vraiment aider aux personnes en détresse. Le DPJ forme lui-même ses intervenants. Souvent, ce ne sont que des jeunes qui peinaient à finir le secondaire 5. Il les lance sur le terrain. Souvent, ces jeunes intervenants viennent dans les familles et donnent aux personnes des leçons de vie, aux personnes qui ont beaucoup plus d'âge, qui ont des enfants, qui ont vécu derrière eux. Et ces gens-là viennent comme des effrontés donner des leçons à des parents d'une manière vraiment qu'on peut comparer presque au Gestapo. Ça n'a aucun bon sens.
Oui. Monsieur Roy, vous en pensez quoi, comme parent?
Bien, en tant que parent, si je regarde les intervenants que moi j'ai eu à rencontrer, très peu étaient formés adéquats. Et je sais de quoi je parle, j'ai été intervenant moi-même dans un centre de thérapie, je suis pas psychologue, mais j'ai une certaine formation. Et je suis à même de constater réellement qu'il y a un grand manque de formation, mais plus que tout... Moi-même, c'est arrivé que j'ai assisté des parents à des rencontres qu'ils avaient avec les intervenants. Et j'ai même en caméra de filmer un directeur de ressources qui disait qu'il y avait des employés qui s'étaient rendus travailleurs sociaux, mais que jamais ils se sont informés sur les références de travail. Avoir les abus de pouvoir qui se commettent, je me demande comment ça se fait que la protection de la jeunesse ne passe pas même des évaluations psychologiques et psychiatriques avant d'engager un employé. C'est beau avoir une formation universitaire, mais si la personne est très mal intentionnée et que son rêve, c'est juste détruire des familles, mais en commettant des parjures en plus à la cour, qui est sous le code criminel, je trouve ça très grave que moi, en tant que parent, et moi, de la manière que ça s'est passé dans mon dossier, ce que j'ai vécu, moi, ils ont complètement remis un pédophile en contact avec mon enfant, malgré ses aveux à la cour, malgré ses aveux à la police, malgré un rapport sexologique incriminant. Et depuis que c'est la propre avocate de mon enfant qui disait que mon enfant le réclamait, mais avec le temps, j'ai été 3 ans sans voir mon enfant, mais maintenant, ma fille, c'est la vérité, et elle m'a même donné le mandat de poursuivre son avocate dans les prochaines semaines, étant donné que la vérité, elle a été sue, et j'ai les preuves de tous les crimes qui se commettent. Moi, en tant que parent, je peux vous dire qu'il doit y avoir un méga changement en chambre de jeunesse, et j'attends depuis un fort moment l'invitation des ministres à me rencontrer, parce que j'ai sur eux, c'est réellement pas rose, et c'est pas aux ministres que je remettrai un prix, moi.
Parfait. Madame Bouchard, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter quelque chose. En passant, l'une des travailleuses sociales que j'ai pu reconnaître qu'elle faisait un travail vraiment dévoué. Un jour, je l'ai rencontrée, deux ans plus tard de nos entretiens, je l'ai rencontrée et elle m'a dit je ne travaille plus pour les centres jeunesse. J'ai été surprise. Elle m'a dit, écoutez, moi, mon cœur de mère ne pouvait plus supporter le fait de détruire et de retirer des enfants de la vie. Alors, elle n'a pas été plus loin.
Oui,
elle
c'est ça.
Elle m'a uniquement dit cette phrase-là, mais j'ai tout compris ce qu'elle voulait dire. Alors, vous savez, puis c'était une travailleuse sociale diplômée, juste oui. À l'université.
Donc, elle, bien formée.
Bien formée. Alors, voyez... que ces personnes-là qui sont bien formées, ce sont des personnes vraiment expertes et précieuses pour le système, mais on ne semble pas pouvoir garder ces personnes-là parce oui. que justement, il y a un roulement énorme dans le personnel des centres jeunesse.
Effectivement, en général, les intervenants avec lesquels on n'a pas de difficultés, ce sont des intervenants qui sont dûment formés et membres d'une corporation professionnelle. Il est rare qu'on va avoir des difficultés avec des gens formés qui sont membres de l'Ordre des psychoéducateurs du Québec ou vraiment membres de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec. Ceux avec lesquels on a davantage des difficultés, ce sont les ARH, les agents de relations humaines, qui peuvent pas avoir été formés dans une technique quelconque. Ils ne sont pas imputables.
Là. Je ne suis pas tout à fait d'accord, M. Boivin, avec vous, parce que même les travailleurs sociaux dûment formés et même bien intentionnés vont obéir aux directives de leur directeur, de leur supérieur. Et s'il veut continuer à travailler et occuper son emploi au centre jeunesse, il va obéir. Sinon, il va déguerpir, tout simplement.
Ouais. Sauf qu'ils sont plus attaquables. Ils font beaucoup plus attention. Si vous êtes membre d'un ordre professionnel, vous avez un syndic, on peut attaquer personnellement ce professionnel-là au niveau de sa corporation. C'est beaucoup plus délicat pour lui. Oui, il y a allégeance à la DPJ et il va jouer entre l'arbre et l'écorce. Hein.
Oui, mais aussi...
Mais c'est pas eux autres avec lesquels on a le plus de difficultés.
Aussi, le fait très connu, c'est Hannah Arendt qui a déjà... qui, après la Deuxième Guerre, a développé la théorie de banalité du mal.
Ouais.
C'est elle qui a découvert que l'être humain n'a pas besoin d'être un psychopathe pour commettre des choses terribles à l'autrui. Alors, à moins d'être psychopathe, on ne peut pas sciemment et en avouant, je fais mal à quelqu'un, de faire ce mal à quelqu'un. Il faut s'envelopper des théories bidons de toutes sortes pour voir l'autre personne comme quelqu'un à qui on fait subir quelque chose vraiment terrible pour son bien. Il faut que la personne soit convaincue que c'est pour son bien. Alors, c'est là où le bât blesse. Le gouvernement a mis sur pied, il y a très longtemps, il y a en 64, la première loi sur la protection de la jeunesse, qui a donné aucune possibilité à l'enfant même de se faire représenter par un avocat, de faire appel au jugement de la cour, etc. Cette loi qui s'est avérée vraiment catastrophique après les scandales de maltraitance physique des enfants dans les centres jeunesse au Québec en 75, Parti québécois qui est arrivé au pouvoir en 77 a adopté une nouvelle loi sur la protection de la jeunesse en décembre 77 qui est entrée en vigueur en janvier 79. Madame Marois, qui était ancien travailleuse sociale, qui a lancé une grosse campagne. L'enfant, auparavant, n'était qu'un objet de loi. Aujourd'hui, c'est un sujet de loi, ce qui est totalement faux, encore une fois. L'enfant ne peut que subir l'autorité de l'État qui décide qu'est-ce qu'il va devenir, comment le diriger, etc. Ce n'est qu'un objet dont s'occupe une administration froide, inhumaine, mm-hmm. qui nous rend malades.
Ouais. Ceci étant dit, revenons un peu au rapport que vous avez entre les mains, Mme Bonny. Vous avez, en fait, il y a deux rapports. Hein? Il y a celui de Hubert Côté, commissaire aux plaintes, et il y a celui de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Est-ce que les deux sont contradictoires? Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires intéressants dans un rapport, davantage que dans un autre?
Non, parce que les droits de la personne se basent déjà sur les recommandations du commissaire aux plaintes pour faire leurs recommandations.
Okay.
Dans le fond, il y a eu une recommandation que j'ai trouvée vraiment... c'est une joke. Il recommande de nous rencontrer, moi et le père, pour nous expliquer les circonstances du décès de notre fils.
Ah ben oui.
Parce qu'en fait, avant de les rencontrer, on a eu 4 versions différentes de qu'est-ce qui est arrivé à notre fils. Et en rencontre, on a eu une 5e différente de qu'est-ce qui est arrivé. Donc, il y a 5 versions différentes de qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui est arrivé à notre fils.
Voilà. C'est la confusion qu'on veut semer et qu'on sème. Ça, c'est vraiment sciemment. Notre gouvernement le fait de plein gré.
Dans le fond, moi, je trouve ça horrible parce que j'ai rêvé longtemps que mon fils, c'était le jeune qui l'a trouvé pendu. Et moi, je rêvais que je le trouvais pendu partout. Mais finalement, à la dernière version, le garçon l'a trouvé à terre parce que ça a l'air que la pole de rideau douche a cédé sous son poids. Donc, il est inconscient à terre. Mais c'est une méchante différence pour une mère qui dit qu'il y a des cauchemars. Ça faisait plusieurs mois que je disais que j'avais des cauchemars. Là. Je l'ai su juste au mois de juin.
Est-ce que vous avez eu droit à des services psychologiques? Parce qu'on sait que les intervenants terrains du centre du Berdeau ont eu droit à des services d'aide psychologique dans les semaines qui ont suivi. Et ça n'a pas pris 8 mois avant qu'ils les aient. Est-ce que vous avez eu des services d'aide, de support psychologique?
Je l'ai dit dans les journaux que j'avais jamais eu de dans le fond, qu'on ne me l'avait jamais offert. Donc, à la rencontre du mois de juin, le monsieur m'a offert des services. Et j'ai eu tout de suite, j'ai été vue en dedans d'une semaine par une psychologue. Et j'ai fait juste une rencontre avec elle parce que...
Une seule rencontre?
Oui, j'ai arrêté parce qu'elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'aider si je ne pouvais pas croire que mon fils est parti au paradis. Donc, il fallait que j'aie les mêmes croyances qu'elle, alors j'ai juste arrêté de me présenter. Là. C'était inutile là, de faire ça.
C'était la seule rencontre que vous avez eue avec cette personne-là?
Oui.
Eh bien,
ils ont donné très, très vite les services, hein, par exemple. Tu sais, mon fils était en attente depuis plusieurs mois, puis moi, je l'ai eu tout de suite, le service, là,
Et je me souviens très bien, dans un des articles du Journal de Montréal, on nous disait que c'est pas parce que un enfant ou un jeune était placé dans un centre jeunesse qui est sous l'égide de la DPJ qui peut avoir un service d'aide psychologique plus rapidement qu'un autre jeune dans la société.
Oui.
C'est quand même quelque chose, là.
Bien sûr.
T'sais, hey, voyons donc.
Je tiens à préciser une affaire aussi, c'est que moi, quand mon fils est mort, dans la même semaine, je me souviens plus c'est qui, mais il y a une personne qui travaillait à la DPJ qui m'a contacté puis qui m'a dit que la travailleuse sociale attitrée au dossier de mon fils était démolie puis qu'il voulait que je lui fasse une lettre que je la tenais pas responsable du décès de mon fils. Je ne l'ai jamais fait.
Mais ça documente bien, à mon avis, à mon humble avis, mais qui est bien documenté, la politique du gouvernement du Québec, mais aussi de bien d'autres gouvernements des pays occidentaux, et surtout de l'Amérique du Nord, c'est la fuite vers l'avant devant les crimes commis contre la famille par les services sociaux, surtout de la protection de la jeunesse, mais aussi d'autres politiques. Mm-hmm. C'est la fuite depuis des décennies en donnant de plus en plus de pouvoir arbitraire à ces gens-là. Le gouvernement du Québec et ses instances reconnaissent publiquement la loi sur la protection de la jeunesse est une loi d'exception, ce qui veut dire en partant qu'il n'a pas à respecter les droits fondamentaux de la personne. Mm-hmm. Et voilà.
Écoutez, en terminant, parce que c'est tout le temps que nous avions, j'aimerais juste peut-être qu'on fasse un petit dernier tour de table, donner chacun notre point de vue là-dessus. Est-ce qu'on croit que les recommandations de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et du commissaire aux plaintes vont être entendues dans des pays? Selon vous, est-ce que ça sera mis en application ou c'est un peu de la poudre aux yeux? Madame Bonnier?
Non, je crois pas, parce qu'il y a eu un autre décès 2 mois après que les recommandations m'ont été données.
D'accord. Monsieur Stone?
Mais si personne n'est responsable, si c'est la douche qu'il faut démolir, alors comment vous voulez qu'il y ait une amélioration dans quoi que ce soit? Si je ne suis pas responsable de mes actes, alors pourquoi m'améliorer? Dites-moi, où est la logique dans ça?
Monsieur Roy?
Ben moi, je crois que ça sera pas entendu, parce que la preuve est qu'il y a même un ministre qui a eu le front d'aller décerner un prix à cette bande d'incompétents-là, tout simplement.
Madame Bouchard.
Oui. Je me demande combien de temps faut-il attendre, là? Combien de blessures de déchirement seront encore infligées aux enfants et aux familles? Combien de futurs parents en quête de services psychologiques ou psychiatriques seront encore, en toute innocence de cause, quotidiennement et systématiquement fabriqués par nos différents réseaux? C'est vraiment ça qui est inquiétant, parce que même si on amène ça publiquement, il n'y a absolument rien. C'est le silence radio. Rien qui se passe.
Mais pas le nôtre.
C'est assez inquiétant.
Donc, merci beaucoup, Mme Bouchard. Bien, chers amis, autour de la table, aujourd'hui, merci de votre présence. C'est tout le temps que nous avions. C'est fort intéressant. J'ai vraiment apprécié. Espérant que notre émission vous a plu.
Nous vous invitons
donc à notre prochain rendez-vous, le dernier vendredi du mois de décembre. Donc, à bientôt.
Le mois de décembre, OK.
Merci, Mme Bouchard. Merci à tous. À la prochaine.
Merci à vous.
Karine?
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup d'héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner.
Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 9e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2014 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com.
HEC Montréal. Ces lettres vous mèneront loin. Multilingue, international, le baccalauréat en administration des affaires vous est offert en trois cheminements. En français ou bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, une expérience universitaire à votre portée. Pour vivre une expérience exceptionnelle dans une université renommée et internationale. Information hec.ca. HEC Montréal. Ces lettres vous mèneront loin. Jusqu'où irez-vous?
Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts.
Radio Centreville,
102,3 FM, un monde différent.
Radio Centreville, 102,3 FM.